Bienvenue à la balado « Le temps de vivre », une série de la Fédération des aînés franco-manitobains qui répond à la question « À quoi ressemble la retraite chez les francophones du Manitoba aujourd'hui? » Vous savez, la retraite, c'est un concept qui a beaucoup évolué au fil des ans. Le dictionnaire l'a défini comme étant l'action de se retirer de la vie active. Je suis désolée, M. Larousse, mais si je me fie aux invités que nous viendrons à connaître dans le cadre de cette série balado, vous conviendrez que c'est tout le contraire. La retraite, c'est un retour à la vie active sous une autre forme. Prenez l'exemple de Bertrand Naillet. Pendant 29 ans, chaque matin, Bertrand entrait dans la salle de classe et transmettait son amour de la littérature, de la langue française et des arts visuels aux jeunes du secondaire. En parallèle, il continuait à développer ses multiples talents d'auteur, de poète, de comédien, d'artiste visuel et j'en passe. Comme nous l'apprendrons dans les prochaines minutes, lorsque Bertrand Naillet a pris sa retraite en juin 2018, un chapitre de sa vie prenait fin, oui, lui accordant plus de temps et d'espace pour écrire un tout nouveau chapitre. Ici Monique Lacoste, et voici ma conversation avec Bertrand Naillet, qui nous explique d'abord comment il a passé sa première journée officielle de retraite en septembre dernier, lors de la traditionnelle rentrée scolaire.
C'était vraiment très simple. Mon épouse et moi, nous avons pris notre retraite en même temps, et le jour de la rentrée, ou le jour qui aurait été la rentrée scolaire, nous nous sommes tout simplement levés tard. On a fait une petite journée, puis c'était aussi simple que ça. C'était pas un grand bouleversement, c'est pas un pas de pincement au cœur. C'était juste la vie qui continuait. Un peu comme au printemps, quand on se rend compte qu'on peut sortir sans son manteau. On est à l'intérieur et il n'y avait pas de changement majeur, c'était simplement on continue la vie, on continue les vacances. La vie telle qu'elle, je pense, devrait être pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde devrait avoir la possibilité et le choix de faire ce qu'il ou elle veut faire sans être contraint par la nécessité de gagner de l'argent, des choses comme ça. Faire ça, faire ce que je veux vraiment faire.
Qu'est-ce qui t'occupe aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui t'occupent.
Oui, il y a beaucoup de choses. Bien, l'enseignement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ça, et même de plus en plus, au fur et à mesure que je prenais de l'expérience et que je pouvais enseigner des cours qui me passionnaient davantage. Mais j'ai aussi remarqué qu'au fur et à mesure que je progressais dans l'enseignement, en même temps et en parallèle, à l'extérieur de l'école, les arts visuels, les arts de l'écriture, du théâtre et d'autres choses, un peu de cinéma, un peu de dessin et toutes sortes de choses, prenaient à chaque année de plus en plus de place. Si bien qu'arrivé au moment où je me suis dit si je pouvais prendre ma retraite, ce que je fais en art prend maintenant la place de ce que je faisais à l'école, tout en me permettant de passer plus de temps avec ma famille, de prendre plus de temps pour aller dehors, pour faire du sport, pour m'occuper de moi, ou simplement pour ne rien faire. Je trouve que ça, c'est un très grand luxe, le luxe de pouvoir choisir. Aujourd'hui, je ne me lève pas. Aujourd'hui, je fais la grasse matinée. Aujourd'hui, je me couche à 8 heures. Aujourd'hui, je choisis de passer la journée à lire, même si c'est un mercredi.
Sans culpabilité.
Sans culpabilité. Ben, ça, il faut que je travaille encore un peu dessus. Parce qu'on a toujours été conditionné à être productif depuis la maternelle jusqu'à ce qu'on rentre sur le marché du travail et même au-delà. Il faut que nos journées soient remplies. Il faut que chaque geste que l'on pose serve à quelque chose, serve à assurer l'avenir de nos enfants, serve à nous assurer à nous un avenir et contribue aussi au bien-être de la société par les impôts, etc., etc. Alors, on est toujours habitué à produire. Quand je me retrouve devant une plage de temps vide, d'essayer de ne pas avoir cette angoisse de la remplir. Mes promenades sont plus longues, mon réveil le matin est plus long. Au lieu de simplement juste avoir mon réveil matin qui sonne, j'ai plus de réveil matin. J'ai choisi, j'ai plus de réveil matin. Je me réveille pour l'instant quand je me réveille. Mais maintenant, au lieu de sauter du lit dès que j'ai les yeux ouverts, bien, ça prend un peu de temps. Je me rendors, je me colle contre ma chum, je passe un peu de temps simplement à réfléchir, à penser, à laisser le sol, les rayons du soleil glisser sur le mur. Ça prend un peu, ça paraît banal, mais c'est des moments qui me permettent de voir qu'est-ce qui est important aujourd'hui. J'ai pas de me dire que j'ai pas le besoin de toujours être comme un petit rat qui roule dans sa petite roulette, là.
Hein? Parce qu'il faut le dire, l'horaire est roi dans une école.
C'est terrible.
C'est à la minute
près. C'est à la minute près. À toutes les heures, ou toutes les 40 minutes, toutes les 50 minutes, toutes les heures, c'est dring, 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 il faut passer à autre chose, un autre groupe d'élèves. Et ça, c'est minant après un bout de temps. Maintenant, quand j'entends dans les quartiers les cloches des écoles, je m'en éloigne, je tourne à droite ou à gauche pour éviter de passer près de l'école. Mais c'est pas du stress post-traumatique, mais c'est un peu ça. C'est comme on veut éviter cet aspect des calendriers ou des horaires, surtout.
Absolument.
Des horaires.
Absolument.
Ouais.
Parlons des faits saillants, par contre. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'enseignement qui vous parlait, qui vous allumait?
On est toujours en train d'apprendre. Même les cours que j'ai enseignés pendant des décennies, je ne pense pas que j'en ai enseigné un de la même façon d'une année sur l'autre. Bon, les groupes changent, les élèves changent, leurs intérêts changent, mais aussi, pour moi, c'est très important de toujours être stimulé, d'avoir quelque chose de pétillant, une étincelle dans ma voix, dans mon regard, mais aussi de voir une étincelle dans le regard des élèves. Alors, j'ai jamais hésité à prendre une tangente, parce que des fois, je retrouve certains élèves des années plus tard et qui me disent « Te souviens-tu, monsieur, quand tu nous as parlé de ça ?» Et ce n'était pas au programme, c'est des choses qui arrivent à l'impromptu, à l'improvise, comme ça, et qui sont toujours passionnantes. Parce que ça arrive, ça leur permet des fois de... Et ça me permet aussi à moi de créer des liens en des choses qui n'en ont pas nécessairement au premier regard, mais qui nous font réfléchir. Alors ce que j'ai aimé, c'est être toujours en apprentissage. Même si je leur enseigne de la littérature du XVIe siècle, essayer de voir comment ça peut se relier à ce qu'on vit aujourd'hui.
Et c'est ce qui importe pour eux, n'est-ce pas?
Ben, c'est ce que j'espère.
Et c'est ce qui leur rend intéressant.
C'est ce que j'espère.
Vous écoutez la balado Le Temps de vivre de la Fédération des aînés franco-manitobains avec votre animatrice Monique Lacoste. Dans le cadre de cette série, nous découvrons les multiples visages de la retraite par le biais d'individus francophones qui dévoilent leur passion, leur réflexion et leur sagesse. Aujourd'hui, nous rencontrons l'enseignant à la retraite et artiste multidisciplinaire Bertrand Naillet. Il nous explique ici à quand remonte sa passion pour les arts.
Du plus loin que je me souvienne, je pense que dès que j'ai pu tenir un stylo ou un crayon, j'ai dessiné. Je me souviens encore de la première histoire que j'ai écrite à l'école. J'y ai pas réfléchi vraiment, c'était simplement, on nous a demandé d'écrire une histoire. Basé un peu, inspiré d'un livre qu'on avait lu, qui était La guerre du feu, qui m'a passionné. Et j'ai écrit une histoire de chasse par un homme préhistorique, mais à la première personne, dans son regard à lui. Ce que je fais encore aujourd'hui, j'écris beaucoup à la première personne. Et mon enseignant, je m'en souviens encore, M. Panis, a lu mon texte à la classe. Sur le coup, c'était comme... Bon, ça faisait du bien,
ouais.
Mais je pense que c'est ces choses-là qui ont orienté petit à petit ce que je suis devenu, c'est ça.
Et tu as grandi en France d'abord.
Oui, bien sûr. Je suis arrivé ici, j'avais 13 ans. Mes ancêtres sont des fermiers depuis des générations, des siècles et des siècles, amen, en France et dans tout ça. Je crois qu'une des choses que la vie à la ferme m'a apporté, c'est à la fois une grande résilience mais aussi une grande débrouillardise. J'ai appris très tôt à me servir des outils. J'aime bricoler, j'aime travailler avec mes mains, la peinture, le dessin, mais aussi la sculpture. À la fin, j'ai fait des choses vraiment aujourd'hui qui seraient considérées comme extrêmement dangereuses. J'avais vu un reportage à la télévision, une colonie de vacances en France, ils faisaient des sculptures et ils montraient comment mouler des sculptures avec du plomb fondu et du plâtre. Faire les moules en plâtre avec de la cire et puis du plâtre et puis ensuite faire des sculptures en plomb. Eux, ils le faisaient dans un environnement très protégé, tout ça. Oui. Moi, j'ai récupéré le plomb des vieilles batteries de tracteurs de mon père et j'ai fabriqué des moules et ensuite j'ai fait refondre le plomb que j'avais purifié, qui était extrêmement dangereux, je ne sais pas pourquoi. Personne ne m'avait dit de ne pas faire ça. Et puis, j'ai moulé, j'ai fait fondre le plomb dans les moules et ça m'a donné des sculptures en plomb que j'ai encore.
Alors, que tu as encore ?
Que j'ai encore, oui, je les ai encore toutes les deux. C'est pas quelque chose que j'ai décidé un jour de faire. Ça s'est fait petit à petit, c'est ce que je suis.
Oui, je ne
peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher de faire ça. J'ai fait des sculptures en utilisant le poste à souder de mon père, en récupérant de la ferraille ici et là. J'ai sculpté des morceaux de bois avec les outils et tout ça. Et c'est fou, mais c'est ce que je faisais.
Sur la ferme, ça ressemblait à quoi la retraite? As-tu des souvenirs de ton père ou de ton grand-père à la retraite?
C'est que quand mon grand-père a pris sa retraite, il a pas vraiment arrêté de travailler. Il avait vendu sa ferme à son fils et tout ça, un de ses fils, mais il s'était gardé un terrain, il s'est construit une maison et tout ça, et il avait un immense jardin, un verger aussi, il avait encore des moutons, un rucher, des abeilles. Alors, ça, c'était pas vraiment une retraite, je voyais simplement, il continue à faire ce qu'il a toujours fait. Ma grand-mère aussi, elle l'a toujours accompagné comme ça. Mon père, lui, c'était un peu différent, mais il a continué pendant très longtemps. Il est encore assez actif maintenant aussi. Il a 80 ans. Il est encore très, très, très actif. Alors, pour moi, j'ai jamais vu la retraite comme un arrêt. C'était simplement, on continue de faire ce qu'on aime faire.
Alors, parle-nous de tes projets actuels, tes projets artistiques. Dans quoi tu es intéressé ces jours-ci? Okay.
Bien, je viens de lancer un recueil de poésie qui s'appelle L'Enfant Rouge, qui est publié aux éditions du Blé. C'est mon premier recueil de poésie en tant que tel. J'ai déjà publié deux recueils de haïku, qui est une forme de poésie, mais qui n'est pas de la poésie, on pourrait dire, classique occidentale. Et donc, je viens de lancer ce recueil qui est le premier d'une trilogie. Le deuxième est presque terminé. Je suis en train de travailler sur ça en ce moment. Et le troisième de la trilogie n'est pas encore écrit, mais je commence à y réfléchir. Et j'allie aussi dans mes recueils les dessins et l'aquarelle avec les textes. Alors, il n'y a pas toujours un texte avec un dessin, mais j'aime amalgamer les deux. Alors, pour le troisième, je suis en train de travailler les images. Parce que pour celui-là, je vais d'abord travailler les images et ensuite écrire les textes en fonction des images. Et alors, je travaille sur ça. Pour le troisième, je parle plus au niveau du visuel et c'est plus abstrait. C'est beaucoup moins réfléchi. C'est beaucoup plus instinctif. D'ailleurs, ça va être plus dans le futur. Alors, c'est plus quelque chose de prophétique. Ça va plus dans le rêve, ça va plus dans l'imagination que les deux premiers. Le premier, l'enfant rouge, c'est le passé avant moi. Le deuxième, c'est beaucoup plus personnel, c'est moi. Et le troisième, c'est après moi.
Alors, pour toi, c'est pas autant le résultat, si je comprends bien,
qui compte. Tout est dans le processus. C'est toujours comme ça. Pour moi, le résultat final, c'est un peu toujours décevant parce que c'est la fin du processus, c'est la fin du travail, c'est la fin de la création. Alors, par exemple, ce que je viens de faire, là, justement, avec la poésie de trottoir, une des autres choses que je viens de terminer, poésie de trottoir, un renku, une série de 36 haïkus que j'ai créé avec le Kukai Rouge, que j'anime ici à la Maison Gabriel Leroy.
Qui est un cercle
littéraire consacré aux haïkus. Ça a été à peu près un an de travail et maintenant c'est terminé. On a terminé ça dimanche dernier et puis j'essaie de le faire vivre un peu plus dans Facebook et tout ça. Mais voilà, c'est fini.
Et on se sent comment par rapport
bien,
à ça?
Un peu, c'est ça, c'est laisser aller. Quelqu'un m'a dit, tu dois te sentir fier. Non, j'ai très, beaucoup de difficultés avec le sentiment de la fierté. J'ai fait quelque chose, pour moi, c'est n'importe qui aurait pu le faire. Bon, pas vraiment, mais en même temps, c'est comme chacun fait ce qui le passionne. Alors pour moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de particulier. C'est ce que je fais, c'est tout. Alors ça, c'est une des choses que j'ai faites.
Ici Monique Lacoste. Mon invité à la série Balado Le Temps de Vivre est Bertrand Naillet, poète, auteur, comédien, artiste visuel et depuis peu, enseignant à la retraite. J'ai rencontré Bertrand dans un lieu mythique de Saint-Boniface au Manitoba. Bertrand nous décrit l'endroit et pourquoi il revêt tant d'importance pour lui.
Bien, nous sommes au troisième étage, dans le grenier de la maison Gabriel Roy, tout près de la petite lucarne où Gabriel Roy écrivait probablement ses premières histoires. C'est un endroit où j'ai travaillé pendant à peu près 7 ans comme auteur en résidence. C'est un lieu que j'aime beaucoup parce que j'ai eu l'occasion d'y rencontrer des gens vraiment très intéressants. J'ai rédigé avec une auteure du Québec, Evelyne Ménard, un recueil de contes en 2010, peut-être, 2011. J'ai donné des ateliers d'écriture à des gens de la communauté. J'aime beaucoup aider les gens à créer, à écrire.
Comment le fait de faire partie maintenant de l'histoire de la maison natale de Gabriel Roy, quel effet que ça peut avoir sur toi comme personne, comme amateur de littérature et comme auteur?
Bien, premièrement, ça m'a permis de revoir ou de lire plus attentivement l'œuvre de Gabriel Roy, que je trouve vraiment visionnaire. Ça m'a permis de saisir un peu plus l'impact qu'elle a eu sur notre société. Et ça m'a permis aussi de voir que, oui, c'est important d'avoir le musée, oui, c'est important d'avoir ce lieu emblématique, de garder en mémoire le fait que cette femme-là, cet auteur, vient d'ici. Mais ce qui est encore plus important, que son héritage se transmette aux futures générations. Et pas simplement ce qu'elle a écrit, mais le cadeau de l'écriture, le fait de pouvoir prendre sa destinée en main par l'écriture, de raconter, de se raconter ou de raconter des fictions, mais pouvoir dire ce qu'ils sont. Et ça, c'est une des choses que j'ai le plus aimé dans cette résidence, c'est justement permettre à des gens de développer leur talent d'écrivain, leur talent d'écrivaine et leur habileté.
Qu'est-ce que Gabriel dirait du fait qu'il y a un cercle littéraire dévoué au haïku qui a débuté ici?
Je crois qu'elle serait fascinée. Je crois que c'est une grande universaliste. C'est une femme qui était une artiste qui était toujours intéressée par la nouveauté, par l'univers, par ce qui nous unit les uns aux autres. Et le fait qu'on puisse, ici, à Saint-Boniface, écrire dans le style des Japonais,
en français,
des réalités d'ici, je crois que c'est fascinant.
Et pourquoi le haïku pour toi? Parce que c'est quelque chose que tu as vraiment privilégié à un moment donné.
Oui, ben que je privilégie toujours. Je crois que ça a à faire beaucoup avec ma vie agricole. J'adore la nature. Je vis à Saint-Norbert, donc c'est la ville à la campagne, ou c'est la campagne à la ville. J'aime beaucoup l'animation de la ville, l'aspect vibrant, la vivacité de la culture en ville. Mais en même temps, je me ressource dans la nature. Une bonne partie de ma journée se passe dehors, dans la nature. Je marche, je fais du ski de fond, je vais en randonnée, seul ou avec mon épouse. Pour moi, c'est ressourçant. C'est là où je développe la plupart de mes idées. Ce qui est la base du haïku, c'est être présent dans l'instant. C'est un peu la philosophie zen qu'on retrouve chez les bouddhistes, d'être ici, maintenant. Si j'avais une religion, je serais bouddhiste. Il y en a qui font du yoga, il y en a qui font de la méditation. Moi, c'est du haïku. En marchant, ça peut se faire partout, en ville ou en nature, mais c'est être présent dans le moment, moi et mon environnement. et l'effet que cet environnement a sur moi, et comment la nature et les saisons et le temps qu'il fait peut être un reflet de mon tempérament à ce moment-là aussi, sans le dire, voici comment je me sens.
Pour les gens qui n'ont jamais vu un haïku, parle-nous un petit peu de la forme.
C'est généralement, en Occident, la façon qu'on l'a adapté à notre alphabet, à notre façon d'écrire, c'est sur trois courtes lignes, trois vers. Le premier a généralement 5 syllabes, le deuxième 7, le troisième 5. Très court, il y a généralement 2 images, une juxtaposition de 2 images, de 2 situations. Et c'est dans cette juxtaposition, dans cette césure, dans cet espace entre les 2 images où se situe l'essence du haïku.
Peux-tu nous donner un exemple à brûle pour point?
Oh, à brûle pour point, comme ça. Longue pluie d'automne, s'attarder sous un grand frêne, tout de feuilles jaunes. On a tous vu des feuilles d'arbres tomber. On a tous vu des biches courant sur la rivière, des oiseaux passer. Et on a tous vécu ces choses-là. Alors simplement le fait d'évoquer ça, ça peut mettre un sourire sur les lèvres. Ça peut dire « Ah, je connais ça ». C'est un peu comme l'expression personnelle, intime, mais qui touche à l'universel, que tout le monde peut comprendre.
Maintenant que vous êtes à la retraite, qu'est-ce qui est le plus important pour toi?
Le plus important, c'est être. Comme on parlait du haïku, puis de la présence, c'est être présent dans le moment. Être bien dans ce que je fais en ce moment. Par exemple, pendant très longtemps, quand je marchais pour aller quelque part. Donc, mon pas était toujours plus rapide parce que mon esprit n'était pas dans l'instant, n'était pas là sur le trottoir ou là sur le sentier. Mon esprit était déjà, se projetait déjà vers l'objectif, vers le but, vers ce que je vais faire là-bas. Aujourd'hui, j'ai remarqué, mon pas s'est ralenti. Et même quand je marche un peu plus vite, la cadence est différente. Mon rythme est différent. Je suis plus dans le moment. Et même avant, c'était je lavais la vaisselle pour m'en débarrasser, pour faire autre chose. Là, maintenant, je prends le temps de laver la vaisselle. J'écoute l'eau, la texture de l'eau, la texture du savon, des assiettes, des tasses, des verres, le bruit, les sons. J'essaie d'être ici, présent. Tout comme quand j'essaie d'être plus présent quand je suis avec mon épouse, quand je suis avec mes enfants, avec ma famille. Alors, qu'est-ce que c'est que bien vivre ? Bonne question, ça peut varier de différentes personnes, mais est-ce qu'on est fait pour travailler ? Est-ce qu'on bien vivre, c'est toujours être à la course, toujours être, avoir le plus de choses possibles ? Bon, ça devient cliché, mais est-ce que c'est être ou avoir ? Bon, des fois, pour être, il faut avoir. Mais c'est pas mal d'avoir, mais en même temps, jusqu'à quel point? Alors là, un gros avantage de la retraite pour moi en ce moment, c'est que ça me permet de mettre davantage l'accent sur être. C'est ça.
Vous êtes à l'écoute d'une série balado de la Fédération des aînés franco-manitobains intitulée « Le temps de vivre ». Je suis votre animatrice Monique Lacoste en conversation avec l'auteur, poète, le comédien et artiste visuel Bertrand Naillet, qui a pris sa retraite de l'enseignement en juin 2018. Vous savez, il est impossible d'aborder l'expérience de la retraite sans toucher quelques questions un peu sensibles. Écoutons.
Le vieillissement.
Ah.
Comment on vit ça?
Bon, pour l'instant, je suis encore en assez bonne forme, mais quand même, je me rends compte que j'ai moins d'énergie, je me rends compte que les petits bobos guérissent moins vite, moins de force aussi. Alors, ça demande de ralentir aussi, d'accepter ça. Ça, c'est peut-être une chose assez difficile, mais ça vient pas avec la retraite, c'est venu avant.
À quel moment tu as commencé à penser ou à être conscient du vieillissement?
Je pense autour de 45, 46, 47 ans. quand je me rends compte que non, je ne peux pas courir aussi vite que les gamins avec qui je m'en vais en randonnée dans les bois. Faire du vélo pendant 3 heures à fond de train, c'est peut-être pas la bonne idée si j'ai quelque chose à faire le lendemain. J'ai toujours été assez sportif, toujours à la limite, toujours essayer d'aller à 100%. Et maintenant, c'est possible, mais mon 100% n'est plus le 100% qu'il était avant.
C'est ça.
C'est peut-être ça qui a initialisé ce recentrement dans l'instant. Mais alors, c'est des choses qui viennent ensemble. J'étais un bon enseignant quand j'étais reposé, quand j'étais en paix avec qui j'étais. Alors, ça a aidé un peu. Mais maintenant, avec la retraite... Là aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir parce qu'ils savent que vous avez du temps. Est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça? Est-ce que tu pourrais faire ci? T'engager dans tel comité? Faire telle chose? Et c'est difficile de dire non. Mais j'ai pris consciemment la résolution pendant un an de dire non à toute demande de ce genre-là. Pas aux demandes artistiques. Et c'est quelque chose auquel je tiens. Alors, ça a demandé un effort conscient.
Alors, y a-t-il un plan de retraite? Y a-t-il un objectif des projets que tu aurais toujours voulu mener, mais faute de temps, tu n'as pas pu aller au bout de tes idées?
Mm-hmm. Ce que j'ai, c'est... J'ai déjà des projets sur à peu près 2 ans. Je vais pouvoir finalement écrire mon roman, mon premier. Alors, il est en train d'avancer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour le terminer, mais il est en cours. Alors ça, c'est quelque chose que je suis vraiment content de pouvoir continuer, pouvoir faire.
Y a-t-il un risque, maintenant que la passion qui a toujours été ce petit velours à l'extérieur du travail, en faisant l'activité principale de la vie, est-ce qu'il y a un danger que ça devienne le travail, le boulot?
Il y a ce danger-là et ça me fait terriblement peur. Mais la bonne chose, c'est que moi et mon épouse avons quand même un bon régime de retraite et des économies. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de travailler. Avant, j'avais plus tendance à, OK, on me propose tel projet, je vais le faire parce que bon, ça va me rapporter un peu d'argent, c'est amusant, puis ça va me permettre de faire un peu d'art. Là, maintenant, je peux le faire, que ça rapporte de l'argent ou pas, si ça me branche. Je le fais. Si je trouve ça intéressant, je le fais. Alors, j'espère que ça va rester comme ça. Il y a un poids qui est... On n'est plus obligé de travailler à un emploi qui ne nous plaît pas, qui nous épuise émotionnellement. On peut faire ce qu'on veut. On peut aller où on veut. Alors, ça, c'est la chose qui est très libérante, je crois. Même si, je le répète, j'ai beaucoup aimé l'enseignement, ben maintenant, je peux faire autre chose. C'est exaltant. La vie continue, il y a encore les petits soucis, tout ça, et puis il y a certains jours où il ne se passe vraiment rien, mais ça c'est aussi génial parce que ça veut dire qu'il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas trop de problèmes.
La mort, on y pense?
J'y pense pas trop. Ben, ça va arriver un jour, peut-être demain, peut-être dans 20 ans, j'espère le plus tard possible, avoir pu faire une plus grande carrière en art, avoir pu publier davantage de livres, aider d'autres écrivains, d'autres auteurs à publier, à développer leur talent. J'aime beaucoup ça, c'est le côté peut-être enseignant en moi, pédagogue. J'espère avoir fait des voyages extraordinaires, pouvoir vivre encore de nombreuses années avec mon épouse. Et puis la mort arrivera quand elle arrivera. Voilà, ce que j'espère, c'est pas avoir une longue agonie, j'espère que ça sera pas souffrant, c'est ça qui me fait peur le plus. La débilité, le fait de devenir une charge pour les autres, ça c'est quelque chose que je ne désire absolument pas. C'est ça qui me fait peur plus, la douleur, l'incapacité physique, la débilité mentale, c'est ça qui me fait énormément peur.
Quel conseil donnerais-tu aux gens à l'écoute qui sont peut-être curieux par rapport à la retraite, qui savent que ça s'en vient, qui savent pas trop comment s'y préparer ou même s'ils doivent prendre le pas? Qu'est-ce que tu leur dirais?
Suivez votre cœur, suivez votre intuition. C'est à vous. Si vous avez le choix entre continuer à travailler et prendre la retraite, faites ce que vous voulez. si vous aimez votre travail, si votre travail est gratifiant pour vous et que vous n'avez pas de soucis d'argent, continuez à travailler. Si vous n'aimez plus le travail, oui, évidemment, faites-le, prenez votre retraite. Et même si ça peut être difficile financièrement, je dirais, prenez votre retraite avant de ne vraiment plus aimer votre travail. J'ai vu certains collègues qui sont sortis de l'enseignement au moment où ils aimaient vraiment plus leur travail. Ça a été libérant, mais ils étaient très, très amers aussi. Alors moi, j'ai eu la chance d'arrêter mon travail quand je l'aimais encore. Et je pense que tout le monde devrait avoir cette possibilité-là, de pouvoir faire quelque chose qui le passionne, qui nous épanouit finalement, qui fait que notre vie a valu la peine d'être vécue.
On va se laisser avec quelques petites questions en rafale.
D'accord.
Alors, routine ou spontanéité?
Spontanéité.
Lève-tôt ou oiseau de nuit?
Oiseau de nuit.
Paysage connu ou nouveaux horizons?
Les deux.
La retraite, une destination ou un voyage?
Un voyage.
L'aspect le plus plaisant de la retraite?
Le temps.
Son aspect le plus difficile?
Le temps.
Finalement, la retraite, c'est...
La retraite, c'est admirable. La retraite, c'est un grand jour d'été.
Catherine Ayen, merci beaucoup.
Merci, Monique.
Je vous en souhaite une bonne.
Merci. Et moi aussi.
Vous venez d'écouter un épisode de la balado Le Temps de vivre avec mon invité Bertrand Naillet. Cette série est produite par la Fédération des aînés franco-manitobains et a été rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada. Ici Monique Lacoste qui vous laisse avec une pensée du Dalaï Lama. Il y a deux jours dans l'année où l'on ne peut rien faire. Ils s'appellent hier et demain. Pour le moment, aujourd'hui est le jour idéal pour aimer, croire, faire et principalement vivre. Salut tout le monde, à la prochaine!